Ainsi s'acheva la première bataille des Guets de Lizenne. De la seconde, on ne devait jamais avoir de récit aussi circonstancié en raison des événements de bien plus considérable importance qui suivirent juste après. Erkenbrand, du Westfold, prit le commandement de la marche occidentale le lendemain, dès que l'annonce de la mort de Théodred eut atteint la Ferté-au-Corps. Il envoya des messagers à cheval à Edoras pour apprendre la chose à Théoden et lui porter les ultimes paroles de son fils, et il y ajouta sa propre requête, que l'on envoie Éomer de toute urgence avec toutes les troupes dont on pouvait disposer.
« Que la défense d'Edoras se fasse ici à l'ouest, dit-il dans son message, et que l'on n'attende pas que vos salles soient elles-mêmes assiégées pour les défendre. »
Mais Grima profita de l'impétuosité de ce conseil pour le faire servir sa propre politique d'atermoiement. Et on ne se décida d'agir que lorsque Grima fut mis en échec par Gandalf. Les renforts menés par Éomer et par le roi en personne se mirent en marche dans l'après-midi du 2 mars, mais cette nuit-là eut lieu la seconde bataille des Guets, et elle fut perdue, et ainsi commença l'invasion du Rohan. Erkenbrand ne se rendit pas lui-même immédiatement sur le champ de bataille. La confusion régnait partout. Il ne savait pas quel contingent il pouvait réunir en hâte, ni ne pouvait-il évaluer à ce jour les pertes réellement subies par les troupes de Théodred. Il jugeait, à juste titre, l'invasion imminente, mais que Saruman n'oserait pas pousser à l'est pour attaquer Edoras tant que la forteresse de la Ferté-au-Corps n'était pas affaiblie et qu'elle restait bien approvisionnée en hommes comme en ravitaillement. Ce souci-là, ainsi que le ralliement de tous les hommes du Westfold, l'occupa 3 jours. Il donna le commandement des troupes à Grimbold jusqu'à ce qu'il pût lui-même rejoindre l'armée. Mais il n'assumait aucune autorité sur Elfhelm et ses cavaliers, car ceux-ci relevaient du ralliement d'Edoras. Les deux commandants étaient cependant de grands amis, et tous deux hommes loyaux et sages, et il n'y avait pas ombre de dissension entre eux. L'organisation de leurs troupes s'arrangea comme un compromis entre leurs opinions divergentes. Elfhelm jugeait que les Guets n'étaient plus aussi essentiels et constituaient dès lors plutôt un piège pour immobiliser des hommes qui auraient mieux à faire placés ailleurs. D'autant qu'en fonction de ses desseins, Saruman pouvait aisément envoyer des forces des deux côtés de l'Isène. Et à n'en point douter, il avait pour dessein immédiat d'envahir le Westfold et d'occuper la Ferté-au-Corps avant qu'aucune aide effective ne puisse parvenir d'Edoras. Ses troupes, du moins la majeure partie, descendraient donc la rive est de l'Isène, car en passant de ce côté, et malgré le terrain accidenté, sans route tracée propre à ralentir leur approche, ils n'auraient pas à forcer le passage des Guets. C'est pour cette raison qu'Elfhelm conseillait d'abandonner les Guets et de rassembler tous les hommes disponibles sur la rive est et de les mettre en position de refouler l'avance ennemie sur la longue chaîne de hauteur qui se déployait d'ouest en est à quelques milles au nord des Guets. Il voulait également que la cavalerie soit postée en retrait vers l'est, en un point où elle pourrait charger, avec le maximum de force, le flanc de l'armée ennemie, au moment où elle serait aux prises avec la défense pour la projeter dans le fleuve.
« Que l'Isène leur soit un piège, à eux et non pas à nous !»
Grimbold, quant à lui, craignait d'abandonner les Guets, en partie par respect pour la tradition du Westfold, dans laquelle il avait été bercé, tout comme Erkenbrand, mais aussi par raison.
« Nous ne savons pas, dit-il, de quelle force dispose encore Saruman. Mais ils doivent être considérables s'il a pour dessein de ravager le Westfold et de précipiter ses défenseurs vers la gorge de Helm afin de les y encercler. Et il se garderait bien de les tous déployer d'un coup. Dès qu'il devinera ou découvrira la disposition de nos lignes de défense, il enverra très certainement des forces en très grand nombre qui accourront à toute allure sur la route descendant d'Isengard et qui, si nous sommes tous regroupés au nord, pourront franchir les Guets laissés sans défense pour attaquer nos arrières. »
En fin de compte, Grimbold posta le gros de son infanterie sur la rive ouest des Guets, là où il se trouvait en situation de force, retranché dans les forts de terre qui gardaient les abords. Avec le reste de ses hommes, y compris ce qu'il restait de la cavalerie de Théodred, il s'établit sur la rive est. Mais il laissa l'îlot sans défense. Elfhelm, quant à lui, se retira avec ses cavaliers et prit position sur les hauteurs dont il avait souhaité faire la principale ligne de défense. Son objectif était de rester en mesure de déceler immédiatement toute attaque lancée à l'est du fleuve et de la disperser avant qu'elle ne puisse atteindre les gués. Tout se passa au plus mal. Et de toute évidence, tout se serait mal passé dans tous les cas, car les forces de Saruman étaient bien trop imposantes. Il lança son attaque de jour, et en ce 2 mars avant midi, un fort contingent de ses meilleurs guerriers, arrivant par la route d'Isengard, attaqua les forts à l'ouest des gués. Ce contingent n'était qu'une minime partie de ce dont il disposait, tout juste ce qu'il jugeait suffisant pour se débarrasser des défenses affaiblies. Mais bien que très inférieurs en nombre, les garnisons des forts résistèrent avec acharnement. Toutefois, lorsqu'à la fin les deux places fortes furent prises d'assaut simultanément, une troupe d'Uruk se força un passage entre elles et commença à franchir les gués. Grimbold, confiant qu'Elfhelm repousserait toute attaque du côté est, traversa le fleuve avec tous les hommes qui lui restaient et refoula l'ennemi momentanément. Mais le commandant ennemi jeta alors dans la bataille des troupes fraîches qui anéantirent les défenses. Grimbold fut forcé à se retirer sur l'autre rive. Le soleil commençait à décliner. Il avait subi de lourdes pertes, mais il en avait infligé de plus lourdes encore à l'ennemi, des orques pour la plupart, et il tenait encore fermement la rive est. L'ennemi ne chercha pas encore, à franchir les gués, mais se frayait un chemin sur les berges escarpées pour en déloger les troupes de Grimbold. Elfhelm n'avait pu participer à l'action. Au crépuscule, il retira ses troupes et se replia vers le camp de Grimbold, postant ses hommes par petits groupes, à quelque distance du camp, afin d'en faire une barrière à toute attaque venue du nord ou de l'est. Il ne s'attendait à aucun mal en provenance du sud et espérait recevoir de l'aide. Après la retraite à travers les gués, ils avaient immédiatement dépêché des messagers à Erkenbrand et à Edoras pour faire part de leur situation désespérée. Et craignant, et d'ailleurs bien conscient, que des périls bien plus grands les menaceraient sous peu, à moins que contre tout espoir ils fussent promptement secourus, les défenseurs s'apprêtaient à faire tout leur possible pour arrêter la progression de Saruman avant qu'ils soient eux-mêmes submergés. Presque tous les hommes maintinrent leur position, sauf quelques-uns qui, à tour de rôle, tentèrent de voler un instant de repos ou de sommeil. Grimbold et Elfhelm ne dormirent pas, attendant l'aurore et redoutant ce qu'elle apporterait. Ils n'eurent pas longtemps à attendre. Il était à peine minuit lorsqu'ils entrevirent à l'horizon des petites lueurs rouges qui accouraient du nord et qui s'approchaient à l'ouest de l'Isen. Il s'agissait de l'avant-garde de toutes les forces qui restaient à Saruman et qu'ils jetaient maintenant dans la bataille pour la conquête du Westfold. Ils venaient à vive allure, et soudain on aurait dit que l'armée entière prenait feu. Des centaines de torches s'allumèrent à celles que portaient les chefs des troupes, et entraînant dans leurs flots les contingents qui garnissaient déjà la rive ouest, ils se ruèrent tous ensemble au travers des gués, tel un fleuve enflammé dans une puissante clameur de haine. Une forte compagnie d'archers leur aurait fait maudire l'éclat de leurs torches, mais Grimbold n'en avait guère qu'une poignée. Il ne pouvait songer à tenir la rive est, et il se replia, formant un grand mur de boucliers tout autour du camp. Bientôt ils se trouvèrent encerclés, et les assaillants jetèrent leurs torches parmi eux, les lançant parfois bien plus haut que le mur des boucliers, dans l'espoir d'incendier les provisions et de semer la plus grande panique possible parmi les quelques chevaux que possédait encore Grimbold. Mais le mur des boucliers tint bon. Alors, comme les orques étaient de moindre efficacité dans ce type de combat en raison de leur carrure, l'ennemi lança à l'assaut de féroces contingents d'hommes des collines dunlandais. Mais malgré la terrible haine des dunlandais à l'encontre des Rohirrim, ils redoutaient encore de se trouver face à eux, et ils étaient aussi moins habiles guerriers et moins bien armés. Le mur de boucliers tenait toujours. En vain Grimbold espérait le secours que lui apporterait Elfhelm. Il ne vint pas. Et au bout du compte, il résolut de mettre en œuvre, s'il le pouvait, le plan qu'il avait ourdi en prévision d'une telle situation désespérée. Et il vint d'ailleurs à reconnaître la sagesse d'Elfhelm, comprenant que ses hommes pouvaient bien se faire tuer jusqu'au dernier, et qu'il le ferait s'il le leur commandait, mais qu'un tel héroïsme ne serait d'aucune utilité à Erkenbrand. Plus utile serait tout homme qui parviendrait à s'échapper et à s'enfuir vers le sud, quand bien même cela semblerait une conduite déshonorante. Cette nuit-là avait été sombre et nuageuse. mais désormais la lune, à son déclin, se prit à luire à travers les nuées mouvantes. Un vent approchait de l'est, avant-coureur du grand orage qui, le lendemain, devait balayer tout le Rohan pour éclater sur la gorge de Helm à la nuit tombée. Grimbald se rendit compte soudain que la plupart des torches étaient éteintes et que la violence de l'assaut ennemi s'était calmée. À l'instant, il fit donner les quelques chevaux disponibles à un groupe de cavaliers, ce qui ne représentait guère plus que la moitié d'une Eored dont le commandement revint à Dunhir. On entr'ouvrit le mur de boucliers du côté est, et les cavaliers s'y engouffrèrent en refoulant les assaillants qui se trouvaient de ce côté. Puis, se scindant en deux et tournant bride brusquement, ils chargèrent l'ennemi au nord et au sud du camp. Pendant un court moment, cette manœuvre imprévue fut couronnée de succès, car elle jeta le trouble et la confusion chez leurs ennemis, et parmi eux, il y en eut beaucoup pour penser qu'une imposante cohorte de cavaliers avait accouru de l'est. Grimbald lui-même demeura à pied avec une arrière-garde d'hommes d'élite qu'il avait choisi au préalable, et couvert momentanément par cette arrière-garde et par les cavaliers commandés par Dunhir, le reste de l'armée se replia aussi vite que possible. Mais le commandant de Saruman discerna assez vite que le mur de boucliers était rompu et que les défenseurs prenaient la fuite. Par chance, un nuage offusqua la lune et tout fut replongé dans l'obscurité, et le chef ennemi était pressé. Les guets étant à présent conquis, il interdit à ses hommes de poursuivre les fugitifs loin dans les ténèbres, et rassemblant ses forces au mieux qu'il put, il chercha à gagner la route du sud. Ainsi survécut la majeure partie de la défense de Grimbald, et ils se débandèrent dans la nuit, mais obéissant à ses ordres, ils évitèrent la route et s'enfoncèrent à l'est de son large virage, là où elle oblique vers l'ouest en direction de l'Isen. Ils furent soulagés, mais fort étonnés, de ne pas rencontrer de forces ennemies, ignorant qu'une puissante armée venait de passer par là quelques heures auparavant, se dirigeant vers le sud, et qu'à cette heure, Isengard n'avait guère d'autre défense que sa propre enceinte de murailles et sa porte. Et c'était pour cette raison qu'aucun secours ne leur était parvenu d'Elfhelm. En fait, plus de la moitié des forces de Saruman avaient été envoyées par la rive est de l'Isen. Ses troupes avaient progressé moins rapidement que ceux qui venaient par l'ouest, car le terrain était bien plus accidenté et sans route tracée. Et ils ne portaient pas de torches. Mais promptes et silencieuses, les redoutables troupes d'orques montées sur des loups les devançaient. Avant même qu'Elfhelm ne fût averti de l'approche de l'ennemi de son côté du fleuve, les chevaucheurs de loups se trouvaient entre lui et le camp de Grimbald, et s'efforçaient d'encercler ses petits groupes de cavaliers. Il faisait sombre, et la confusion régnait au sein de son armée. Il rassembla tout ce qu'il put en un corps compact de cavalerie, mais il fut contraint de se replier vers l'est. Et il ne put rejoindre Grimbald, bien qu'il le sût en grand péril. Il était même sur le point de voler à son secours lorsqu'il fut attaqué par les chevaucheurs de loups. Mais il devina aussitôt, et très justement, que les loups n'étaient que l'avant-garde d'une force bien trop puissante pour qu'il songeât à s'y opposer et qu'il gagnait la route du sud. Déjà la nuit tarissait, ne lui restait qu'à attendre l'aube. Ce qui suivit est moins clair, car seul Gandalf en eut pleine connaissance. Il reçut la nouvelle du désastre en fin d'après-midi, le 3 mars. Le roi se trouvait alors un peu à l'est du croisement de la route avec la branche qui menait à la Ferté au corps. De là, il fallait compter environ 90 milles en ligne directe pour atteindre Isengard. Et Gandalf dut couvrir cette distance aussi vite que le lui permit le galop de Scadufax. Il atteignit Isengard comme l'obscurité commençait à peine à se faire et en repartit seulement 20 minutes après. Sur le chemin de l'allée, qui, prenant en ligne droite, passait à proximité des guets, comme sur le chemin du retour, lorsqu'il prit par le sud pour retrouver Erkenbrand, il ne put manquer de rencontrer Grimbald et Elfhelm. Ils étaient tous deux convaincus que Gandalf agissait sur ordre du roi, et ce, non seulement parce qu'il le voyait chevaucher Scadufax, mais aussi parce qu'il savait le nom de leur messager à cheval, Keorl, et la teneur du message dont il était chargé. Et ils prirent les conseils qu'il leur donna pour désordre. Il envoya les hommes de Grimbald vers le sud, rejoindre Erkenbrand. Le présent texte s'achève au milieu de cette phrase.